Lizzie présente La formule de Dieu de José Rodríguez dos Santos, lu par Philippe Allard. Pour Flor Bella, Katharina et Inès. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui est à venir, le Tout-Puissant. L'Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Avertissement. Toutes les données scientifiques ici présentées sont vraies. Toutes les théories scientifiques ici exposées sont défendues par des physiciens et des mathématiciens reconnus. Prologue. L'homme aux lunettes noires gratta une allumette et approcha la flamme de sa cigarette. Il aspira et un nuage de fumée fantomatique s'éleva lentement. L'homme parcourut la rue du regard et apprécia la tranquillité de ce coin charmant. Le soleil brillait, des arbustes verts égayaient les jardins entretenus, de jolies maisons en bois bordaient la rue, les feuilles frémissaient sous une brise matinale qui s'emplissait d'odeurs et de mélodies, parfumée par la fraîcheur des glycines, bercée par le chant des cigales et le doux gazouillis d'un colibri. Un rire insouciant se mêla à cet harmonieux concert, celui d'un enfant blond qui criait et sautillait de joie sur le trottoir, tirant un perroquet multicolore au bout d'une ficelle. Le printemps à Princeton. Au loin, le bruit d'un moteur attira l'attention de l'homme aux lunettes noires. Il se pencha et regarda au bout de la rue. Trois motos de police, à la tête d'un cortège de voitures qui s'avançait à vive allure, surgirent du côté droit. Le bruit s'accrut et se transforma en un ronflement trépidant. L'homme écrasa sa cigarette dans le cendrier posé sur le rebord de la fenêtre.
« Ils arrivent, » dit-il en tournant la tête.
« Je commence à enregistrer ?» demanda l'autre, le doigt posé sur le bouton d'un appareil à bande magnétique.
« Oui, c'est préférable. »
Le cortège de voitures s'arrêta dans un tohu-bohu devant la maison située de l'autre côté de la rue, une bâtisse blanche à deux étages avec un balcon en façade de style néoclassique. Des policiers en uniforme et en civil assurèrent le contrôle du périmètre, tandis qu'un homme robuste, visiblement un garde du corps, alla ouvrir la porte de la Cadillac noire qui s'était garée devant la maison. Un homme âgé, au crâne chauve cerclé de cheveux blancs, en sortit et rajusta son costume sombre.
« J'aperçois Ben Gurion, »
dit l'homme aux lunettes noires depuis la fenêtre d'en face.
« Et notre ami, est-il là aussi ?»
interrogea l'homme au magnétophone, frustré de ne pouvoir observer la scène par la fenêtre. Le premier détourna les yeux de la limousine pour regarder vers la maison. La silhouette familière du vieil homme, légèrement voûté, avec ses cheveux coiffés en arrière et sa fière moustache grise, apparut sur le seuil de la porte et descendit l'escalier tout sourire.
« Ouais, le voilà. »
Les voix de ces deux hommes se rencontrant dans l'escalier du jardin résonnèrent dans les haut-parleurs du magnétophone.
« Shalom, monsieur le Premier ministre. » « Shalom, professeur. Soyez le bienvenu dans mon humble demeure. C'est un plaisir d'accueillir le célèbre David Ben-Gourion. »
Le chef du gouvernement rit.
« Vous plaisantez sans doute. Tout le plaisir est pour moi. Ce n'est pas tous les jours qu'on rend visite au grand Albert Einstein. »
L'homme aux lunettes noires regarda son collègue.
« Tu enregistres ?»
L'autre vérifia les aiguilles qui oscillaient sous les cadrans de l'appareil.
« Ouais, ne t'inquiète pas. »
Là-bas, en face, Einstein et Ben-Gurion étaient bombardés par les flashs des reporters devant le rideau vert et mauve de la glycine qui grimpait jusqu'au balcon. C'était une magnifique journée de printemps,
Le scientifique proposa de rester dehors et indiqua des chaises en bois posées sur la pelouse humide. Tous deux s'assirent là, tandis que les photographes continuaient d'immortaliser le moment. Au bout de quelques minutes, un garde du corps écarta les bras pour éloigner la presse, laissant les deux hommes seuls, tout à leur conversation, dans la douceur ensoleillée du jardin. Dans la maison d'en face, les voix continuaient à être enregistrées par le magnétophone.
« Êtes-vous satisfait de votre séjour, monsieur le Premier ministre ?»« Oui, Dieu merci, j'ai pu obtenir quelques appuis et de nombreux dons. Je dois encore me rendre à Philadelphie, où j'espère récolter davantage d'argent. Mais ce n'est jamais assez, n'est-ce pas ? Notre jeune nation est entourée d'ennemis et elle a besoin de toute l'aide qu'on peut lui apporter. » Israël n'existe que depuis 3 ans, monsieur le Premier ministre. Comme on pouvait s'y attendre, il y a des difficultés. Mais il faut de l'argent pour les surmonter, professeur. La bonne volonté ne suffit pas.
3 hommes en costume gris firent irruption dans la planque des 2 observateurs, leurs revolvers braqués sur eux.
« Pas un geste !» hurlèrent les hommes armés. « FBI !»
L'homme aux lunettes noires et son collègue levèrent les bras sans montrer le moindre affolement. Ceux du FBI s'approchèrent, leurs revolvers toujours pointés et menaçants.
« À terre !»«
C'est inutile !»
répliqua tranquillement celui aux lunettes noires.
« À terre, j'ai dit ! Je ne le répéterai pas !»«
Du calme, messieurs. Nous sommes de la CIA. »
L'agent du FBI fronça le sourcil.
« Pouvez-vous le prouver ?»«
Oui, si vous me laissez sortir ma carte. »«
D'accord. Mais doucement, pas de geste brusque. »
L'homme baissa lentement le bras droit, glissa la main sous sa veste et en tira une carte qu'il montra à l'agent du FBI. Celle-ci était frappée du tampon circulaire de la Central Intelligence Agency, Frank Bellamy, agent de première classe. L'homme du FBI fit signe à ses collègues de baisser leurs armes et regarda alentour, examinant la pièce.
« Qu'est-ce que l'OSS fait ici ?»« L'OSS n'existe plus, mon vieux. Nous sommes la CIA, maintenant. »«
Ok, qu'est-ce que la CIA fait ici ?»«
Ça ne vous regarde pas. »
L'agent du FBI posa son regard sur le magnétophone.
« Vous enregistrez la conversation de notre génie, c'est ça ?»
Ça ne vous regarde pas.
La loi vous interdit d'espionner des citoyens américains, vous le savez.
Le Premier ministre d'Israël n'est pas un citoyen américain.
L'homme du FBI considéra un temps la réponse. De fait, conclua-t-il, l'espion de l'agence rivale avait un bon alibi.
Voilà des années que nous cherchons à mettre sur écoute notre ami là-bas,
dit-il en regardant par la fenêtre la silhouette d'Einstein.
D'après nos renseignements, lui et sa garce de secrétaire, Dukas, transmettaient des informations secrètes aux Soviétiques. Mais Hoover refuse de nous laisser poser des micros. Il a trop peur du scandale.
Il se gratta la tête.
On dirait que vous avez esquivé le problème.
Bellamy tordit ses lèvres fines, ébauchant un sourire.
Vous n'avez pas de chance d'être au FBI.
Il indiqua la porte d'un geste du menton.
« Maintenant, tirez-vous. Laissez les grands travailler. »
L'agent du FBI retroussa la lèvre en une moue de mépris.
« Toujours les mêmes morveux, hein »
grommela-t-il avant de se tourner vers la porte.
« Sale nazi !»
Il fit signe à ses 2 collègues.
« Allons-y, les gars !»
Sitôt les agents du FBI partis, Bellamy retourna à la fenêtre observer les 2 hommes qui y conversaient assis dans le jardin en face.
« Tu enregistres toujours, Bob ?»«
Oui, » dit l'autre. « La conversation prend un tour crucial. Je vais monter le son. »
Bob tourna le bouton du volume et les 2 voix remplirent à nouveau la pièce.
« Défense d'Israël !»
dit Ben Gurion, terminant sa phrase.
« Je ne sais pas si je peux le faire, »
rétorqua Einstein.
« Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas, professeur. »
Il y eut un court silence.
« Comme vous le savez, je suis pacifiste, »
reprit Einstein.
Il y a déjà tant de malheurs en ce monde, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Une telle arme procure un pouvoir redoutable et je ne sais pas si nous avons la maturité suffisante pour l'assumer. Pourtant, c'est vous qui avez convaincu Roosevelt de développer la bombe. C'était différent.
En quoi ?
La bombe, c'était pour combattre Hitler, mais vous savez, je le regrette aujourd'hui.
Ah oui ? Et si les nazis l'avaient développée en premier, que serait-il arrivé ?
Évidemment,
acquiesça Einstein, hésitant.
Ça aurait été une catastrophe. Bien qu'il m'en coûte de l'avouer, la fabrication de la bombe était peut-être un mal nécessaire.
Donc vous me donnez raison.
Vous croyez ?
Bien sûr. Ce que je vous demande est un nouveau mal nécessaire pour assurer la survie de notre jeune nation. Je veux dire par là que vous avez déjà renoncé à votre pacifisme durant la Deuxième Guerre mondiale, puis une nouvelle fois pour aider Israël à naître. Je voudrais savoir si vous êtes encore prêt à le faire.
Je ne sais pas.
Ben Gurion soupira.
Professeur, notre jeune nation est en danger de mort. Vous savez aussi bien que moi qu'Israël est cerné d'ennemis et qu'il nous faut un moyen dissuasif efficace, quelque chose qui fasse reculer nos adversaires. Dans le cas contraire, le pays sera mort, étouffé dans l'œuf. C'est pourquoi je vous demande, je vous supplie, je vous implore, instamment. S'il vous plaît, renoncez une dernière fois à votre pacifisme et aidez-nous en cette heure difficile.
Le problème n'est pas seulement là, monsieur le Premier ministre.
Eh bien ?
Le problème, c'est que je suis très occupé. J'essaie de concevoir une théorie du champ unitaire qui englobe la gravité et l'électromagnétisme. C'est un travail très important, peut-être même le plus...
Allons, professeur.
Coupa Ben Gurion.
Je suis sûr que vous comprenez la priorité du cas présent.
Bien entendu,
admit le scientifique.
Mais il reste à savoir si votre demande est réalisable.
Et l'est-elle ?
Einstein hésita.
Peut-être,
dit-il enfin.
Je ne sais pas, il faut que j'étudie la question.
Faites-le, professeur. Faites-le pour nous, faites-le pour Israël.